Un livre est un objet digne de respect.
Absolument.
Comme un in-folio.
Savez-vous que parfois l'instruction relève du gag ? Apprendre, bien sûr, est essentiel. L'école est là pour cela, les livres, Internet, le contact avec les autres. Mais chercher à comprendre suppose aussi une élévation de l'esprit, l'ouverture à la nouveauté. Alors j'ai sorti de ma bibliothèque Cosmogonie, ou de la formation de la Terre et de l'origine des pétrifications. Par Bonner Mansuy, 1824. C'est un format inuit, 12 cm par 20,5, la librairie ecclésiastique Ruzan, qui est aussi imprimeur du roi, le tout à Paris et à Lyon, de 179 pages. La couverture est une pleine peau étirée, coiffe à cette faunaire soulignée de liserés dorés et de fleurons, avec le titre sur un petit maroquin bleu. Sur le plat de la couverture, une couronne de laurier dorée surmonte un compendium scientifique et encadre le libellé « Collège de Château-Gontier ». Autrement dit, c'est un livre de prix scolaire. C'est confirmé par l'ex-libris en page de garde sur lequel est écrit « Deuxième prix d'études de religion décerné à Edmond Hédard, élève de 3e, 1836 ». Le papier est un verger de très belle qualité. Bon, tout ça c'est très bien. Le titre Cosmogonie, ça désigne la théorie de la formation de l'univers. L'éditeur est l'imprimeur du roi, Charles X, à l'époque. Un compendium scientifique sur la couverture, c'est-à-dire un dessin d'instruments regroupant un globe terrestre, un rapporteur, un compas, une équerre, une longue vue, etc. Tout y est pour faire sérieux. En complément, voilà comment débute la préface. L'amour de la vérité et la passion des belles âmes, il dénote la noblesse du cœur et la droiture de l'esprit. Il s'agit donc d'un livre scientifique, nous sommes totalement confiants. Et patatras. Car de là, il en tire dans son discours préliminaire, les auteurs, les autres évidemment, ont attribué la formation de la Terre à une action lente, successives et permanentes des parties constitutives de ces couches. Cette supposition comportait une immense consommation de temps. Aussi, ces mêmes auteurs, sortis par leur système des limites de la Genèse, ne sachant plus comment expliquer l'origine du monde, ont-ils été obligés, pour se tirer de cette difficulté, de perdre cette origine dans une suite incalculable de siècles imaginaires. Nous sommes en 1824, hein. À part quelques tentatives plus anciennes, la géologie comme domaine scientifique ne date que du début des années 1800. Elle fait rage et s'empare de tous les salons intellectuels. La plupart des écrits refutent évidemment la création de l'univers et de la Terre suivant la Genèse, comme quoi le monde n'aurait que 6000 ans et a été fabriqué en 6 jours. Ceci dit, Mike Pence, vice-président des États-Unis, fervent créationniste, y croit encore, hein. L'Église trouve cependant quelques adeptes scientistes, pour défendre la Bible. Mais là quand même, avec Bonner Mansuy, cela relève plus du conte pour enfants que d'une réelle démarche scientifique. Aussi, nous allons passer à quelques exemples pour s'en convaincre. Dans le chapitre « Existence et destruction d'un monde antérieur », la Terre recevait la lumière du Soleil. Mais il n'existait point de lune pour éclairer ses nuits. C'est exact, la Genèse ne parle pas de la lune. D'après ce que je suis fondé à croire, dit-il, les anges exerçaient sur cette Terre une puissance que Dieu leur avait accordée. Mais plusieurs en abusèrent, firent des œuvres d'orgueil et de ténèbres, et se révoltèrent contre Dieu. Ce dernier, voulant confondre ses esprits rebelles, suscita contre eux les anges de lumière. Les anges des ténèbres furent vaincus. Mais Dieu voulut aussi anéantir les œuvres de leur iniquité en détruisant la terre. Il souffla donc la destruction sur cette terre, et à l'instant, elle se rompit longitudinalement avec un horrible fracas en deux parties inégales qui se séparèrent à une grande distance. Dieu accumula sur la moindre de ces parties les eaux, les frimas, la frigidité et les ténèbres, et cette masse se balançait dans l'espace. En même temps, l'autre section de la Terre, dépouillée de ses eaux, remontait vers le Soleil. Son atmosphère, modifiée par le souffle de Dieu, se convertit en un fluide dissolvant qui la tint dans un état d'incubation. Et il poursuit. Alors, les rivages sableux des mers desséchées devinrent liquides et les coquillages immergèrent et se moulèrent dans le sable fondu. Les rochers dissous ensevelirent sous leurs pattes lapidifiques les animaux terrestres et les plantes ou les coquillages qui se trouvaient à proximité. Là, il vient donc de justifier les fossiles. Les arbres, subissant aussi l'effet de l'incubation, furent carbonisés et quelques-uns même pétrifiés. Et voici la suite du raisonnement. Attention, écoutez bien. Je nommerai terre froide celle autour de laquelle les eaux et les frimas furent accumulés. Et terre chaude, celle qui fut dissoute par le fluide incubateur. En s'éloignant de la terre froide, la terre chaude avait tracé dans l'espace une colonne de projection correspondant d'une terre à l'autre. Et toutes les matières détachées ou dissoutes de la terre chaude se précipitèrent sur la terre froide. La projection des débris de la terre chaude comprit non seulement les substances mises en fusion par le fluide incubateur, on vient de le voir, mais encore des masses intactes de granit, de sable et de terre, comme nous le verrons un peu plus tard. Il ne resta plus de cette masse qu'un noyau hérissé d'horribles aspérités, séparées les unes des autres par des cavités semblables à des volcans taris. Voilà. Il a osé. Ainsi se trouve donc résolu le problème, selon Bonner-Mansuy, de la durée de l'univers, le monde nouveau à bien 6000 ans bâti sur un autre plus ancien. Et en prime, il a créé la Lune. N'oublions pas que c'est aussi un spécialiste de la pétrification. Dans son chapitre 4, Théorie des cailloux. Les cailloux ne sont pas, comme l'ont écrit quelques auteurs, des pierres roulées par les courants, et qui ont été usés et arrondis en même temps par le frottement. Les cailloux sont, comme je le dis ici, des larmes compactes de gluten lapidifique qui, tombées de la terre chaude sur la terre froide, se sont ainsi granulées par la compression de l'air et par l'effet de la rotation qu'elles ont continuellement éprouvée pendant leur chute, étant encore assez molles pour obéir à la compression de l'air. Alors là, celle-là, fallait quand même la oser. Elle est très forte. Mais ce n'est pas fini. À côté des cailloux, il y a les gros cailloux. Des blocs ou fragments détachés de ces grandes masses les ont suivis dans leur chute. Mais leur vitesse étant en relation de leur pesanteur, les petites sont arrivées quelque temps après les grandes. Et la terre froide, qui pendant ce temps marchait dans le sens dans ce mouvement, n'a pu les recevoir sur le même point que les grandes masses. C'est pourquoi ces blocs retardataires tombèrent les uns sur le Jura et les autres sur le territoire de Pontarlier et se trouvèrent ainsi isolés sur des masses de calcaire précédemment stratifiées. Pas merveilleux, ça ? Ceci dit, à la démarche de Bonner-Mansuy, Wegener publie La tectonique des plaques en 1915 seulement, soit près d'un siècle après. Et encore, faudra-t-il attendre les satellites pour qu'on reconnaisse comme tout à fait valable cette théorie. Je vous passe ce qui concerne l'humanité, car là, il se défoule aussi, en attribuant que le genre humain donc se divisait en espèces, les unes conservèrent leur blancheur primitive, et puis il y en eut qui contractèrent une couleur plus ou moins basanée, et d'autres qui devinrent plus ou moins noires. Autrement dit, c'est la supériorité de la race blanche, Dieu était blanc. Petite conclusion, les systèmes les plus brillants et les plus ingénieux, proposés en géologie, ont successivement échoué parce qu'ils renfermaient en eux-mêmes un principe mortifère, l'invraisemblance. En démontrant l'évidence de ma proposition, je réfute d'un seul mot tous les systèmes contradictoires qui l'ont précédé.
Comme un in-folio.